Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Voilà deux émissions de la CAT. La première sera consacrée au Sahara occidental et la deuxième sera consacrée au Mexique. Alors, Dolly, est-ce que tu pourrais nous dire oui. pourquoi nous allons parler du Sahara occidental aujourd'hui ?
Bien sûr, Jacques. Cette émission est consacrée au Sahara occidental parce que c'est un territoire oublié des médias et c'est aussi oublié l'action des militants sahraouis qui luttent pacifiquement pour l'indépendance de leur pays sous occupation marocaine depuis très longtemps, depuis la marche verte de 1975. Donc, ce qu'il faudrait peut-être, Jacques, maintenant, c'est situer pour mémoire où se trouve ce pays et quelle est son histoire récente.
Bon, alors, le Sahara occidental, c'est une longue bande de territoire semi-désertique, pour ne pas dire carrément désertique, oui. qui est située en Afrique septentrionale. Alors, je m'explique. Il est bordé à l'ouest par l'Atlantique, il est face aux îles Canaries, hein, je pense oui. que vous voyez ce que c'est. À l'est, beaucoup par la Mauritanie
oui.
et un peu par l'Algérie.
Hein. Oui.
Et au nord, par le Maroc. Voilà. Et il y a toujours eu depuis fort longtemps des revendications territoriales des voisins, comme la Mauritanie, comme l'Algérie et comme bien sûr le Maroc. Alors c'est une région avec, qui était surtout peuplée de tribus semi-nomades. Donc ça n'était pas vraiment à l'origine un pays constitué. Alors il a été longtemps sous protectorat espagnol jusqu'en 1973. Ouais. Et ce pays, qui était un pays de nomades, marqué par l'animisme en particulier, devint l'objet d'intenses convoitises de la part de ses voisins, à partir du moment où l'on découvrit qu'il était un pays riche en phosphate, que ses côtes regorgeaient de poissons. Donc il y a quand même des intérêts économiques très, très importants dans cette espèce de convoitise des voisins immédiats.
Eh oui. Le tournant décisif, avant le départ des Espagnols et le mouvement de guérilla qu'on appelait le Polisario, qui amena ceux-ci à quitter la région en 1976, ce fut la fameuse marche verte organisée par les autorités marocaines. Et je rappelle les chiffres de cette marche verte. 350 000 civils ont marché, du Maroc bien sûr, avec 20 000 soldats. Et cela a marqué le début de l'occupation du Sahara occidental par le royaume chérifien, le royaume marocain. Et depuis ce moment-là, le Maroc n'a cessé de renforcer son emprise sur le Sahara occidental. En 2014, par exemple, pour donner un exemple, en 2014, l'extraction du phosphate dont tu as parlé a rapporté au Maroc 234 millions de dollars. Et un parc éolien a été érigé dont 74% des capitaux est détenu par la famille royale du Maroc. Actuellement, les trois quarts de la population de ce territoire est d'origine marocaine et les autochtones se trouvent en minorité. Le roi du Maroc a proposé l'octroi du statut de région autonome mais qui se resterait sous le contrôle du Maroc.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le Maroc fait comme s'il donnait une certaine autonomie, tout en empêchant, par exemple, une véritable autodétermination, si j'ai bien compris, des populations locales. Et avec une population marocaine qui a été massivement envoyée vers ce pays, les autochtones, les gens originaires du pays se retrouvent en minorité. Et il faut préciser aussi que le Maroc s'est arrangé pour faire en sorte que la plus grande partie du territoire le plus intéressant soit sous sa domination, et il a laissé aux, disons, aux populations sahraouies qui étaient avec le Polisario, le mouvement d'indépendance, il les a repoussés plutôt vers la frontière algérienne et mauritanienne, et a construit un mur de sable séparant les deux territoires. Et dans le territoire qui est conservé par plutôt le Polisario, bah il y a rien, quoi. C'est le désert. Il n'y a pas de ressources.
Voilà. Et oui. Donc, pour résumer, le Maroc occupe illégalement, selon le droit international, ce territoire depuis 40 ans, et toute opposition sahraouie, même les plus pacifiques, à cet état de fait est durement réprimée.
Alors, l'émission va être consacrée en partie justement à l'un de ses opposants qui est un opposant pacifique, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris les armes, lui, hein, emprisonné et lourdement condamné pour des faits qui relèvent de la simple opposition politique normale. Alors, on va vous parler des circonstances de l'arrestation de cet homme, et on va d'abord donner son nom. Il s'appelle Naama Afiri. Alors, venons-en aux circonstances de son arrestation. Près de la capitale de ce pays, qui pour le moment n'en est toujours pas un, hein, c'est une région occupée, malgré que l'ONU reconnaisse le droit de l'autodétermination de ces populations. En novembre 2010, près de 20 000 Sahraouis se sont installés. Les Sahraouis, ce sont les habitants hein, du Sahara occidental. Ils ont installé un campement de protestation contre l'occupation illégale de leur pays par le Maroc, à Godem Izi. Et un militant pacifique chargé des relations avec la presse est arrêté avec 23 autres lors de la destruction par les troupes marocaines du camp. C'est une action violente. Hein. Il s'appelle donc Naama Afiri. Il a été torturé, il a été malmené. Il a signé sous la contrainte des aveux pour des faits de violence, tenez-vous bien, qui ont été commis plusieurs jours après son arrestation. Donc il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et donc, 3 ans après avoir été jeté en prison, il passe en jugement et il est condamné de façon expéditive, allez, carrément, à 30 ans de prison. Nous donner quelques détails maintenant.
En décembre 2016, suite à une plainte s'appuyant sur des arguments solidement documentés et une plainte déposée par la CAT, le Comité des Nations Unies contre la torture a condamné le Maroc pour ses pratiques à l'égard des militants sahraouis. C'est une première qui fait du bruit, parce que c'est quand même très important. Le comité demande au Maroc d'indemniser la victime, de mener une enquête indépendante et impartiale sur les allégations de torture et aussi que les auteurs soient poursuivis.
Alors, le Maroc a donc été condamné, en fait, dans les faits. Mais en réalité, à notre connaissance, bien que cette décision soit contraignante juridiquement pour le Maroc, puisque ce pays quand même se présente comme étant à l'avant-garde de la lutte contre la torture en Afrique, les juges marocains refusent dans un premier temps de prendre acte de la décision de l'ONU. Et en juillet 2017, c'est récent, En juillet 2016, grâce à la pression internationale, la Cour de cassation de Rabat a invalidé la condamnation de Naama pour d'autres motifs. En fait, c'est des motifs de formulation, c'est pas sur le fond que la condamnation a été invalidée, mais pour des vices de forme, quelque chose dans ce genre. Les accusés, eux, dont Naama, sont toujours en prison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont 23, sont toujours en prison au Maroc, et non au Sahara occidental, où devraient être détenues ces personnes, parce qu'en fait,
oui,
ils sont détenus
sûr.
Dans un pays,
tout à fait.
Dans un autre pays oui, que
oui.
le leur.
Oui.
Mais comme le Maroc considère que le Sahara occidental est devenu... fait partie du territoire marocain, voilà. Alors, conformément au droit international humanitaire, il devrait être détenu au Sahara occidental en attente de la décision de la Cour d'appel de Rabat. Voilà. Voilà où on en est pour l'instant en ce qui concerne ce problème.
Et d'ailleurs, à propos de cette affaire, Jacques, signalons la sortie d'un documentaire qui retrace le combat de la femme de Naama, Claude Mangin, pour mobiliser en France et à l'étranger autour de la cause sahraoui et aussi, bien sûr, de la cause de son mari. Ce documentaire s'appelle « Dis-leur que j'existe ». Et ce film a été réalisé par Manu Mosset et il mêle témoignages, images d'archives, dessins et animations. Et il évoque l'histoire de leur combat. Dans un contexte général où ici et là on entend même chez des chefs d'État considérés comme démocratiques dire que la torture serait une nécessité pour des raisons de sécurité intérieure en particulier, il importe de rester vigilant et d'affirmer, comme le fait en permanence la CAT, que jamais des aveux obtenus sous la torture, ne devraient pouvoir être utilisés devant la justice. Ceci est la chose la plus importante et à retenir. Et il faut revoir qu'il y a eu effectivement récemment encore des textes sur la Convention contre la torture.
Oui, et... Pour conclure enfin notre propos sur le Sahara occidental, on peut s'interroger sur le fait que des pays, d'ailleurs comme la France, comme d'autres pays d'Europe, privilégient en quelque sorte les bonnes relations à la fois diplomatiques, économiques, enfin des choses qui sont très mêlées, parce qu'il faut pas oublier quand même que il y a des enjeux économiques derrière.
Oui, le phosphate.
Ce pays font preuve d'une grande mansuétude pour le Maroc sur ce point-là.